Bienvenue à Sur la ligne. Cette émission tout tennis cette semaine, les Canadiens ont eu beaucoup de succès à Rome, mais pas autant que Novak Djokovic et Iga Swiatek, qui ont assumé pleinement leur place de numéro 1 mondial. Le classement Forbes des athlètes les mieux payés est sorti. Roger Federer est dans le top 10 alors qu'il ne joue pratiquement pas. Nicolas Richard, bonjour. Hugues Léger, bonjour. Les gars, êtes-vous prêts?
Ok, oui.
C'est parti.
Salut, salut les gars, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Sur la ligne, l'émission officielle, le balado officiel de l'Omnium Banque Nationale. À tout seigneur, tout honneur, avant qu'on commence, je veux souhaiter un joyeux 26e anniversaire à Hugues Léger. Bonne fête Hugues, comment est-ce qu'on se sent à 26 ans?
Merci les gars. Ouais, 26 fois 2 et plus. Mais mon truc pour rester jeune, c'est de jouer contre des U13, U14 au tennis et ça me donne un sentiment de jeunesse et de pouvoir surtout. Donc, mais ça va bien. Merci beaucoup. Très apprécié.
Toujours mieux de, en guillemets, torcher la jeune génération pour se remettre en confiance. Il n'y a rien de mieux que ça.
À plein ça.
Nico, comment te portes-tu dans ton Saint-Jérôme à l'extérieur? On entend les oiseaux là, chez vous.
Oui, c'est tellement champêtre comme décor. Ben oui, de retour à l'extérieur, les gars. Le Roland Garros arrive, c'est le début de l'été officiellement. Il était frappé quelques balles de golf ce matin, ce week-end aussi, parce que mon bon ami Francis s'est blessé à la main. Plusieurs ampoules, je pense. Donc, blessé à long terme pour Francis. Donc, je dois m'absenter des cours de tennis pour quelques temps, mais bientôt de retour. Puis les gars, honnêtement, on dit à chaque semaine, mais plus on regarde de tennis, plus on a le goût d'y jouer. Franchement, avec ce qu'on a vu à Rome ce week-end, j'ai jamais joué sur la terre battue, contrairement à Hugues Léger. Mais bon Dieu que ça donne le goût de jouer sur le beau sable rouge, qu'il soit à Rome ou à Madrid, peu importe, mais ça donne le goût de frapper des balles.
Ah ben Nico, je t'inviterai dans mon coin à Saint-Sauveur, parce que dans ma cour, j'ai des terrains de terre battue rouge.
Et semble-t-il, okay.
Et semble-t-il qu'il n'y en a pas beaucoup, Hugues. On en a déjà parlé, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup au Québec, des terrains de terre battue rouge. Mais moi, j'ai ça en arrière de chez nous, un petit lac. On pourrait se faire une petite soirée, là, si tu veux venir dans mon cas. C'est pas bien loin, Saint-Sauveur, de chez vous.
J'apporterai mon Fruitopia, ils nous verront comme des bons.
Si vous regardez la version vidéo, vous constatez qu'on est à l'hôtel Montville, mais on n'est pas dans le même décor que d'habitude. On est dans la salle de conférence dans la salle de conférence Bleury qu'on peut louer, hein, Hugues, n'est-ce pas? C'est une super belle salle, là. On est ici. Tu donnes plus de détails?
Oui, oui. Ben c'est vraiment une belle salle avec une vue sur la rue Bleury, des fenêtres qui doivent faire, 5 mètres de haut, là, vous les voyez derrière moi, une vue plongeante sur le rez-de-chaussée et la très belle réception aussi. Mais c'est une salle que vous voyez aussi assez souvent pour des tournages de publicité, de téléséries, parce qu'elle est vraiment intéressante. Il y a une bibliothèque derrière aussi très, très belle. Donc, toujours des très beaux espaces au Montville là, qui sont disponibles pour la location.
Et il y a des vedettes qui ont passé hein, dernièrement. Tu parlais de ça un peu, Hugues, avant qu'on rentre dans le tennis?
Des vedettes qui sont passées?
T'as pas Loud?
Dans la presse, Dominique Tardif qui a fait un reportage sur Loud, là, qui était sur le toit de l'Hôtel Montville pour le lancement de son album qui sortira le 20 mai prochain. Franchement, un de mes artistes préférés au Québec de voir. En fait, j'ai vu défiler l'article sur Twitter, je pense. Puis là, j'ai fait ce toit-là me dit franchement quelque chose. Cliquez sur le lien. Et c'est dit dans l'intertitre, à l'Hôtel Montville, Loud lançait son album. Écoute,
ça me fait plaisir parce que l'aménagement, c'est un projet de Grid Space dont je faisais partie. Là, on a lancé cette terrasse-là sur le toit qui est peut-être la plus belle à Montréal, je le dis en toute objectivité. Là, venez faire un tour, c'est vraiment une vue à presque 360 degrés, vraiment sublime et très, très beau décor pour soirée privée ou entre amis avec DJ, tout ça. Là, ça vaut vraiment la peine de le voir.
Mais c'est ce que l'art disait, parti de rien, sur l'asphalte, jusqu'au sommet de Montréal, à l'Hôtel Montville.
Bien dit.
L'art, d'ailleurs, qui va être dans un de mes événements préférés de l'été, messieurs, tout juste avant l'Omnium Banque Nationale, qui est pendant, en général, Wimbledon. Là, je ne vais pas regarder si les horaires vont coordonner, mais les régates de Valleyfield, messieurs, dont ma blonde est originaire à Valleyfield, sera en spectacle et j'en serai fort aise.
Messieurs, l'art va être là.
Oui, exact. Loud et Charlotte Cardin, d'ailleurs, qui a dominé les
Juno Awards.
Ils ont une belle programmation. Ils ont décidé de renouveler la programmation. D'habitude, ils invitaient Éric Lapointe, mais il est moins invitable maintenant, ça a l'air. En tout cas, monsieur, parlons de tennis puisque c'est notre mandat. On s'est vraiment éloigné. Aussi, je veux mentionner que on va accueillir un peu plus tard Abraham Zanter, qui est le corps et l'âme sur la ligne. Je peux vous dire, c'est lui qui tient le podcast à bout de bras et je vais être bien content de l'accueillir. Et il y en a une qui a pris le tennis non pas à bout de bras, mais elle a les deux mains mises sur la première place mondiale sur le tennis en général, Iga Swiatek, messieurs, une performance une fois de plus dominante. Est-ce qu'elle va perdre un match d'ici la finale à Roland-Garros? Nico, je commence avec toi.
C'est complètement fou ce qui arrive en ce moment pour la Polonaise. Écoutez, les gars, quelques statistiques. Remporte un 5e tournoi consécutif. Remporte un 28e match de suite et a remporté 42. Ça, je pense que c'est la stat qui m'impressionne le plus. A remporté 42 de ses 43 derniers sets. Elle ne perd rien, elle ne perd jamais. C'est impressionnant ce qu'elle fait, c'est historique. Malheureusement pour Swiatek, puis je dis malheureusement, je ne veux pas lui mettre trop de pression, mais si elle ne parvient pas à gagner Roland-Garros, ce sera une déception. Tellement elle joue bien, tellement elle est dominante. Et non seulement ça, puis c'est ce que j'écrivais dans mon article sur la presse là, en fin de semaine, elle a prouvé qu'elle était dominante. Pourquoi? Parce qu'elle a battu la seule joueuse qui, je pense, pouvait peut-être l'embêter, c'est-à-dire 11 jabeurs. Et elle n'en a fait qu'une bouchée, domination complète et totale pour Swiatek. Je pense que ce qu'on vit présentement, c'est un privilège de l'avoir à seulement 20 ans, dominer la planète de tennis comme ça. Et j'ai dominé, là, je pèse mes mots parce qu'elle ne fait pas juste gagner ses matchs, elle brise ses adversaires. C'est franchement très impressionnant.
Tu fais bien aussi de souligner son jeune âge, hein, parce que bon, elle se place peut-être comme une fille qui pourrait dominer le tennis. Évidemment, elle avait gagné Roland-Garros à un jeune âge, mais je ne sais pas si on avait prévu une telle domination dans son cas ou quelqu'un avait vu venir ça, mais c'est absolument phénoménal. Et ben moi, je tiens à souligner que je l'avais comme gagnante dans mon jeu des prédictions, mais rendu là, as-tu du mérite? Hugues, commentaire sur la performance de Swiatek.
Ben, apprenons tous à bien prononcer son nom, là, je parle pour monsieur tout le monde et pour nous aussi, parce que je pense qu'on va entendre parler pendant un bon bout de temps de Iga Swiatek. Elle bat record sur record en ce moment, là. Cette série de 28 victoires consécutives, lui vient détrôner, Serena Williams, donc, qui avait gagné 27 de suite entre 2014 et 2015. On a parlé à plusieurs fois, elle est la légitime numéro un, clairement, depuis le départ de Ashleigh Barty. Je me demande même ce qui se serait passé si Barty était encore là. On ne le saura jamais, malheureusement. Mais écoute, effectivement, elle ne perd aucun set. C'est notre Bianca qui l'a poussée le plus loin dans ses retranchements en lui donnant un 7-6 en quart de finale. On reparlera de Bianca un peu plus tard parce qu'elle a été aussi très impressionnante la semaine dernière. Mais Swiatek, elle est sur une autre planète en ce moment. Là. Écoute, 11 Jabeur qui gagne la semaine dernière à Madrid, qui sera en finale encore cette semaine. C'est génial pour 11 Jabeur. Mais elle n'était pas de taille avec Swiatek lors de cette finale qu'elle perd 6-2, 6-2. C'est toute une numéro 1 qui est la plus jeune du top 10 encore. Tu parlais de son jeune âge. Donc, évidemment, elle rentre comme grande favorite à Roland-Garros. Mais encore une fois, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais Iga Swiatek, génial. Moi, ça fait vraiment plaisir de voir un nouveau visage là, sur le circuit féminin que les gens vont apprendre à découvrir à Roland-Garros. Donc, les attentes seront énormes. Et je pense que sa célébration, je vais finir là-dessus, elle s'est un peu effondrée en larmes à Rome. Elle était vraiment contente. Mais je pense qu'elle commence à sentir ou à réaliser le poids historique de ce qu'elle fait en ce moment. Donc, espérons qu'elle va arriver dans des bonnes conditions à Roland-Garros parce que tous les yeux seront rivés sur elle pour le French Open.
Est-ce que vous voyez, messieurs, une autre prétendante au moment où on se parle? Elle est absolument dominante. Est-ce que 11 Jabeur, Nico, pourrait venir mêler les cartes? Bon, elle a connu quand même deux bons tournois avec une victoire la semaine passée et une autre finale cette semaine. Est-ce qu'elle pourrait légitimement aspiré à la Coupe où Swiatek est tellement dominant?
Je pense pas. Puis tu sais, lorsqu'on regarde le portrait de ses possibles rivales, là, si on se projette en quart de finale ou en demi-finale, tu sais, on pense, oui, à Badosa, à, bon, peut-être Sabalenka, peut-être Sakkari, Kontaveit même, peut-être. Il n'y a personne qui est présentement à son niveau. Et on l'a vu aussi qu'elle a fait face à l'adversité à certains moments dans le match de 11 Jabeur, donc en finale. Rappelez-vous, lorsque c'était 4-2 en faveur de Swiatek, qu'elle a fait face à 3 balles de bris à 0,40 et que finalement, elle revient pour sauver ces 3 balles de bris. Finalement, elle en sauve 4, revient pour gagner ce point-là. Ce moment-là m'a fait dire à quel point cette fille-là, c'est une battante parce qu'elle aurait pu Bon, elle a baissé son jeu d'un cran, elle dit, bon, je vais laisser aller ce jeu-là, j'ai du lousse, j'ai de l'avance. Non, elle est revenue, elle a compté jusqu'à la fin chacun de ses services comme si c'était le dernier qu'elle servait dans sa vie. Franchement, c'est impressionnant. Et tu sais, lorsqu'on regarde le parcours de Swiatek, on a beau se dire, bon, peut-être qu'elle a eu un tableau favorable, c'est pas vraiment le cas, là. Parce qu'on regarde, bon, le premier tour, c'est assez une évidence, là, lors des 16e de finale, mais ensuite, c'est Azarenka, championne Grand Chelem, Bianca Andreescu, qui est tout feu, tout flamme ces temps-ci. Ensuite, Sabalenka, qui, bon, on sait, elle est tellement douée. Puis, Ong Jabeur. Donc, c'est pas vrai de dire que son parcours s'est fait dans la dentelle. Franchement, Swiatek a prouvé qu'elle avait sa place. Puis tantôt, Hugues parlait de Barty, puis je repensais à ça ce week-end. À quel point on était naïf de croire que ça prendrait du temps avant qu'on trouve sa remplaçante. La nouvelle reine du tennis, ça a pris seulement pratiquement un mois et demi, et déjà Swiatek trône au sommet. Puis honnêtement, les gars, je m'attends à ce qu'elle finisse l'année numéro 1. Puis quand en janvier, à l'Open d'Australie, elle soit la meilleure joueuse au monde, encore une fois. C'est fantastique.
Ouais, c'est une belle victoire qui lui rapporte 500 000 $ de moins que Novak Djokovic. Je ne sais pas si, monsieur, vous avez vu ça, mais ça a fait jaser un peu. Hugues, as-tu une explication? Je te lance un peu là-dessus l'autobus comme ça, là, mais tu sais, des fois, je me souviens à l'Omnium Banque Nationale, par bout, il n'y avait pas exactement la même bourse, mais ce n'était pas le même niveau de tournoi.
Non, mais vous vous souvenez, on en a parlé il y a quelques semaines, là, il y a eu un enjeu majeur avec les bourses à Rome. Ils sont en moyenne, là, j'ai pas vérifié les derniers chiffres, mais ils étaient 35% ou entre 30 et 35% moins que tous les autres masters durant l'année. Donc, ils ont eu un problème, là, au niveau de leur financement et de leur commandite, et ça s'est reflété dans le partage des bourses entre les hommes et les femmes. Mais le problème était plus profond que ça, en fait, là. Ils étaient short, là, d'un 30% pour se qualifier dans l'échelle de bourse que les Masters 1000 et WTA 1000 doivent avoir. Donc, je n'ai pas eu toutes les réponses là-dessus. On va en savoir un petit peu plus, là, mais je pense qu'ils ont dû perdre un commanditaire ou il y a un truc important qui s'est passé parce que même pour l'an prochain, ça les met sous pression de rétablir cet élément-là. Mais n'oublions pas quand même, les gars, que à part les grands chelems, je crois qu'il y a seulement deux ou trois Masters WTA 1000 qui ont des bourses égales. Donc, il reste un enjeu quand même là, pour les tournois de premier plan au niveau de la parité. Et il faudrait régler ça aussi.
Oui, exact. Nico, voulais-tu ajouter quelque chose ou le résumé de Hugues fait le travail, comme on dit?
C'est à part que c'est dommage parce qu'ultimement, il joue le même nombre de matchs, le même nombre de manches. C'est dommage, mais je pense que Hugues l'a bien dit. Je pense qu'il y a un aspect là, qui est purement financier dans ce problème-là. Je pense que même le tournoi, là, j'imagine, n'est pas nécessairement fier là, de ce fait d'armes qui n'en est pas un, là, qui est plutôt regrettable. Mais non, c'est dommage. Que dire de plus?
Ouais, enfin, il y a beaucoup de jeux de coulisses dont on n'est pas au courant. Là, puis, tu sais, peut-être que si on avait toutes les informations en main, ce serait plus facile de comprendre la situation. Mais c'est quand même une situation que certaines personnes ont décriée et à tout le moins ont noté. Messieurs, on va rester du côté des femmes parce que je veux qu'on donne une plus grande place à Gabriela Dabrowski, que Nicolas Richard a déclaré comme étant présentement la meilleure joueuse canadienne. Moi, j'ai screenshoté ce tweet-là, Nico, parce que, en tout cas, on pourra en discuter. Mais explique pourquoi tu penses que c'est la meilleure joueuse canadienne présentement.
Parce qu'en ce moment, je mesure les chances de gagner de chaque joueuse. Et la joueuse qui a le plus de chances au Canada de gagner présentement, c'est Gabi Dabrowski. Je m'explique. Oui, Bianca joue bien. Oui, Léla joue bien. Puis je suis persuadé que si on faisait un match un contre un, Dabrowski perdrait probablement là, contre Bianca et contre Léla. Cela étant dit, on mesure le succès par le nombre de victoires, par le nombre de championnats. Et présentement, si j'avais à miser sur une joueuse canadienne pour remporter, pour soulever un trophée à Roland-Garros, c'est Gabi Dabrowski devant Bianca, devant Léla. Pourquoi? Un, elle joue magnifiquement bien. Avec sa partenaire Juliana Olmos, ça a l'air de vraiment, vraiment bien cliquer. J'ai parlé notamment à Dabrowski il y a quelques jours, puis elle me dit à quel point la chimie est importante et elle est extraordinaire entre les deux joueurs, parce que ça a cliqué immédiatement. Et aussi le fait que, les gars, elle a remporté le tournoi à Madrid et une semaine après, fait les finales et elle le dit sur son post Instagram qu'elle a fait, c'est une des défaites qui lui fait le plus mal parce qu'elle sentait, elle avait la première manche, elle sentait qu'elle pouvait aller remporter un deuxième titre consécutif juste avant la porte d'Auteuil. C'est passé, j'ai pas vu le match parce que c'était pas diffusé malheureusement, mais si on regarde les statistiques, c'est passé tout près. On jouait contre deux joueuses russes de talent, deux bonnes joueuses de double aussi. C'est mal à table pour Roland-Garros. Et comme je le disais, présentement, la joueuse à qui j'ai le plus d'espoir du côté canadien, c'est Dabrowski.
Hugues?
Oui, je suis assez d'accord avec Nico sur ça. Bon, évidemment, on s'entend, c'est une spécialiste de double, mais bon, elle a aussi de l'expérience. Elle est dans la meilleure position des joueuses canadiennes pour aller jusqu'au bout à Roland-Garros, effectivement. Là, ses tournois préparatoires en double sont imbattables du côté féminin. Je serais aussi, moi, prêt à prendre ce pari-là. Puis je suis content qu'on parle de Gabby Dabrowski. Elle apporte beaucoup au Canada. Elle apporte beaucoup à Billie Jean King Cup aussi. On va la revoir lors des finales au mois de novembre. Donc, ça fait vraiment plaisir de la voir. Mais j'en profite pour glisser vers Bianca aussi, parce que Bianca m'a étonné par son retour. Là. Il y a encore quelques semaines, je me disais, on verra semaine après semaine, mais on sent un progrès. Elle est beaucoup plus fit qu'elle pouvait être il y a un an. J'avais abordé le sujet sur la pointe des lèvres à ce moment-là, mais elle est plus fit, ça paraît, et mentalement, elle semble très bien. Donc, on aura Bianca qui sera plus qu'une flotteur à Roland-Garros. Je crois que c'est la fille qu'on ne veut pas affronter. Je pense que Viatek est largement favorite, mais Bianca est la fille qu'on ne voudra pas affronter. Est-ce qu'elle peut aller jusqu'au bout? Je ne serais pas prêt à la mettre jusqu'avec le trophée dans les mains. Mais effectivement, si on veut voir un trophée canadien, Gabby Dabrowski, là, c'est le pari qu'on pourrait prendre tout ça aujourd'hui.
Et pour compléter rapidement, Hugues, sur Bianca, à chaque fois qu'elle joue, puis on a regardé ses matchs, les gars, elle m'étonne. Pourquoi? Parce qu'elle revient sur terre battue. On sait que la terre battue n'est pas une surface qui l'avantage nécessairement parce que c'est une surface plus lente, qui avantage les joueurs défensifs ou la balle le plus d'effet, tandis que Bianca, c'est une joueuse offensive qui aime avoir de l'effet dans ses balles, qui aime diversifier ses coups, ce qui est moins le cas, ce qui est moins propice sur une terre battue. Donc, de voir qu'elle revient avec ce niveau d'énergie, surtout ce niveau de confiance, vraiment, Hugues, tu l'as dit, elle m'a jeté à terre. Elle m'a jeté à terre parce que j'étais sûr qu'il se disait, soyons patients avec Bianca. Mais déjà, pour Roland-Garros, je vise les quarts de finale. Je sais qu'elle est capable, tout dépendant du tableau, évidemment, qu'elle va avoir parce que son classement n'est pas encore là, favorable. On s'entend que le top 50, c'est d'ici le Minimum Banque Nationale. Là, je pense qu'on s'entend tous là-dessus. Le parcours de Bianca m'épate jusqu'à maintenant. Et tant mieux parce que lorsque Bianca va, ben c'est tout le tennis canadien qui va bien.
Ben, tu fais bien le souligner, tu sais, quand on regarde sa victoire contre Emma Raducanu, tu sais, bon, évidemment, Raducanu connaît pas la meilleure saison, une saison à la hauteur d'une championne de Grand Chelem, là, je vais dire ça comme ça, mais il reste qu'elle jouait mieux depuis un bon bout de temps. Il n'y en a pas eu de match. Bianca l'a rossé. Elle s'est retirée, là, mais le premier set, il n'y avait pas de match. Et quand on regarde son premier set, contre Swiatek, Nico, je pense que tu citerais une défaite honorable. C'est quelque chose comme ça dans la. Tu l'as dit sur Twitter ou dans un article. Oui, c'est ça. Et c'est tout à fait ça. Je veux dire, quand on vantait tantôt les mérites de Swiatek, comme quoi elle est dominante, elle échangeait coup pour coup au premier set contre elle. Bon, le deuxième set, on a vu la championne prendre les devants. Et c'est peut-être un peu normal parce que, bon, Bianca n'a pas enchaîné beaucoup de matchs depuis le début de la saison, mais c'est une performance, j'oserais dire, plus que rassurante, Hugues. Hein?
Ah oui, moi je vous dis, c'est elle qui a le plus poussé à Swiatek. Elle l'a mis vraiment en difficulté. Mais je vous le dis, je suis impressionné. On revoit la Bianca de 2019 en ce moment. She's back, hein. Il n'y a pas de doute. Elle n'est pas en retour, en progression. Là. Son classement va juste sauter là, semaine après semaine. Et moi aussi, je la revois rapidement à ce rythme-là dans le top 20. Là. Donc, écoute, quelle belle surprise. Honnêtement, je m'y attendais pas. On avait tous un doute là, sur sa capacité à revenir. Elle a fait un vrai reset. Elle a pris une longue pause. Ça a été salutaire à tous les points de vue, mental, physique. Et encore une fois, à Roland-Garros, il n'y a aucune fille qui voudra jouer contre Bianca. Puis on a vu des filles qu'on voyait dans le top 5 établies puis gagnantes sur nos prédictions. Je pense à Badoza, je pense à Sakkari, qui sont moins présentes qu'on pensait. Je pense à Kontaveit aussi. Donc, Bianca a sa place pour revenir vraiment au premier niveau. Donc, watch out sur surface dure durant l'été parce que là, elle va revenir dans ses quartiers où elle est vraiment à l'aise. On est de retour avec notre championne, là.
Ouais, et les gars, je nous écoute parler puis ce que je trouve fascinant, c'est qu'on parle comme ça de Bianca et elle a joué à peine 10 matchs. Tu sais, je suis convaincu que dans sa... Tu sais, elle ne l'a pas dit publiquement, mais je suis convaincu qu'elle et ses entraîneurs avaient un plan. C'est-à-dire, bon, disons les 15 premiers matchs, on veut atteindre tel niveau. Après 3-4 tournois, on veut être là. Mais là, déjà après 10 tournois, elle est, je pense, dans une espèce de mouvance ou un rythme qui est normal. Je suis convaincu, on n'est pas dans le secret des dieux, mais je suis persuadé qu'elle-même est un peu surprise de cet élan-là qu'elle a imposé, parce qu'après 10 matchs, les gars, on s'entend que personne n'avait prévu de voir Bianca là et surtout de parler d'elle comme étant une prétendante à une possible présence en quart de finale dans le premier Grand Chelem qu'elle fait moins d'un mois après son retour. C'est fascinant.
Et surtout, messieurs, moi, ce qui me rassure dans cette histoire-là, c'est que, bon, là, j'ai l'impression que, tu sais, Hugues disait « she's back », puis non seulement « she's back », mais elle semble en santé aussi. C'est pas un retour de « on est en demi-teinte », elle a pris deux arrêts, de temps d'arrêt médical dans son premier match, un temps d'arrêt médical dans son deuxième match. Et là, on se doute, à chaque fois qu'elle avance un tour, on se dit est-ce qu'elle va se rendre au prochain tour ou est-ce qu'elle va jouer son prochain tour, t'sais? Alors que là, j'ai l'impression qu'on a un échantillon assez représentatif de ce que Bianca pourrait être, et force est d'admettre que la pause qu'elle a prise, me semble visiblement justifiée, parce que là, elle semble prête, elle semble en forme. Hugues le disait, elle semble fit et visiblement, elle est capable de compétitionner contre les meilleures joueuses au monde. Alors, c'est très, très, très rassurant, je pense, qu'on a vu dans les dernières semaines et particulièrement cette semaine de Bianca Andreescu. Messieurs, on va faire une courte pause. Au retour, on va accueillir Abraham Santerre et on va également parler de ce qui s'est passé du côté des hommes. Messieurs, avant qu'on passe à 100% du côté des hommes, je voudrais quand même pas qu'on oublie de parler de Leila Annie Fernandez là, rapidement, parce que ça a quand même été intéressant ce qu'on a vu de son côté. C'est sûr qu'il n'y a pas eu autant de positif que du côté de Bianca Andreescu, mais quand même, elle a eu une solide performance au premier tour, Nico.
Ouais, ben tu sais, lorsqu'elle a affronté Pavluchenkova, qui était 14e tête de série. Elle l'a remporté en trois manches. Elle avait perdu la première, je pense, 6-1 ou 6-2. Mm-hmm. On se dit, crime, Leila, première manche, c'est difficile. Finalement, elle revient dans le match. On se dit, OK, est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'elle est de retour? C'est intéressant. L'autre match d'après s'effondre contre Kazatkina, qui est une bonne joueuse, de somme toute, mais qui, je pense, n'est pas au niveau de Leila. Je pense que Leila aurait pu prendre l'ascendant, surtout avec l'élan qu'elle avait suite à la victoire contre Pavluchenkova. Et c'est pas inquiétant, c'est dérangeant, c'est dommage. Surtout que Leila, je pense qu'elle peut bien faire sur terre battue, même si c'est pas nécessairement, je pense, sa surface de prédilection. Elle peut quand même s'en tirer. Du moins, les bonnes joueuses devraient savoir s'en tirer sur toutes les surfaces. Pour Leila, c'est de l'apprentissage. On espère que Roland-Garros se fasse mieux pour elle. Malheureusement, je n'ai pas trop d'espoir. Ça va prendre un petit peu de temps pour la ramener. Mais il faut, là, pour Leila, enchaîner les victoires, enchaîner les bons matchs. Ça commence à faire beaucoup. Là. C'est une longue séquence pour Leila sans gros, gros match.
Ah oui, je te trouve pessimiste, moi, Nico, parce que je trouve que c'est une performance positive quand même. Bon, d'un, Pavluchenkova, c'est quand même une finaliste à Roland-Garros. Alors, tu bats quand même une finaliste à Roland-Garros sur terre battue. Et contre Kazatkina, ben ça s'est joué à peu de choses. Je veux dire, tu parles le dernier set au bris d'égalité. C'est un match qui aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Même la première fois que j'ai lu score, je pensais que bien Leila avait gagné. Tu sais, ça s'est joué à peu de choses. Hugues, toi, est-ce que tu es plus, entre guillemets, de mon côté ou celui de Nico en disant, si tu plus positif ce que tu as vu ou ça traîne encore haut? Je te sens plus.
J'ai l'impression que Bianca souffre du syndrome de la deuxième année.
Leila, tu veux dire?
Leila, pardon, sur le circuit. Les joueuses ont commencé à mieux mesurer son jeu. Je pense que c'est à elle maintenant de reprendre un deuxième souffle là, sur son approche tactique et sur sa façon de jouer. Encore une fois, elle est pas à son aise sur terre battue. Elle aime prendre la balle dans le rebond très tôt. C'est plus compliqué, surtout avec son petit gabarit qu'une Bianca, par exemple, là, quand elle arrive sur terre battue, et de coller la ligne de fond. C'est pas simple. Mais je pense encore une fois qu'elle est là. Après sa belle performance en Billie Jean King Cup, je le répète, là, elle a joué comme numéro un au niveau de l'équipe à Vancouver. Il y a trois semaines de ça, elle a très bien fait. Mais je pense qu'elle doit être en train de réévaluer comment elle passe au prochain niveau. Elle n'est pas dans une dynamique en ce moment où elle pourra conserver son classement top 20. Là. Donc, elle doit faire des ajustements au niveau de son jeu. Et je pense qu'on peut compter plus sur la saison sur dur de voir comment son équipe de coaching va la faire travailler. Mais elle n'est pas dans une très bonne position en ce moment. Je parle du syndrome de la deuxième année. Là, c'est ça qu'elle vit un petit peu comme Raducanu peut-être. Mais par contre, j'ai confiance à son fighting spirit. C'est une bagarreuse, c'est une battante. Et je pense qu'elle va revenir très vite. Et elle va revenir dans cette position-là qu'elle a acquis en fin de saison 2021. Mais elle doit passer par un mode d'ajustement, je crois, en ce moment.
Mais en même temps, Hugues, cette période-là, je pense qu'elle est normale aussi. Rappelez-vous, Bianca, ça fait un peu ça. Eugénie, ça fait aussi ça. Remporte en 2015, 2016, plus compliqué. Bianca, 2019, ça a bien été 2020, un petit... Fait que, tu sais, oui, ça vient avec, ce sont deux jeunes joueuses, mais tu fais bien de le souligner parce que je pense qu'il faut le prendre en considération. Ça fait partie de la game, ça fait partie du développement. Mis à part là, les prodiges, là, ça ne peut pas toujours bien aller. Surtout, tu sais, Leila n'a même pas 20 ans encore. Là. Nos attentes sont quand même élevées envers elle parce qu'on sait qu'elle est capable de le faire, mais il faut se rappeler, tu fais bien de le souligner, il faut se rappeler de cette courbe de progression qui n'est pas nécessairement toujours vers le haut, si je pense. Tu fais bien le souligner.
Non, exact. Bien, chose certaine, en tout cas, là, c'est vrai qu'il y a une espèce de peut-être guing de la deuxième année, là, mais on va se dire sa saison est pas mal moins pire que celle de Raducanu, qui est, elle, championne de Grand Chelem. Puis, tu sais, je sais qu'on va toujours... c'est dommage parce que ces deux-là vont être comparés pour le restant de leur jour en termes de carrière parce qu'elles ont été la finale, la finale la plus grande surprise de l'histoire du US Open. Et c'était deux jeunes joueurs. Enfin, chose certaine... c'est moins pire. Quand on se compare, on se console. C'est là où je veux en venir. Messieurs, j'ajoute Abraham Santerre à la conversation parce qu'il va être avec nous pour le bloc sur les hommes. D'abord, avant tout, Abraham, comment te portes-tu? Es-tu en examen présentement dans les Jonquières?
Et oui, c'est ma semaine d'examen, là, mais ça finit bientôt. J'ai bien hâte de revenir à Farnham et dans la région. Là.
Pour aller échanger quelques balles avec Hugues Léger, là, ton voisin ou presque?
Ouais, ouais, c'est ça. Là. J'ai bien hâte d'y montrer comment jouer. Là. Ça fait longtemps.
polo de tennis que tu as décidé de revêtir pour le podcast, mon cher Abraham?
Ben oui, le podcast, c'est important. Il faut s'habiller chic.
T'es pas obligé de t'habiller chic, mais on le prend. Ah, on le prend. Okay. Bonne chance pour tes examens et merci de ne pas étudier et de venir jaser de tennis avec nous. C'est toujours la meilleure décision. Comme on dit, si l'école nuit à ton tennis, lâche l'école.
Oui, exactement.
D'abord, avant tout, Gage, je vais commencer avec toi. Qu'as-tu pensé de cette performance-là de Novak Djokovic? Est-ce que tu avais prédit cette victoire-là au jeu des prédictions, ce que moi j'avais fait par ailleurs?
Moi, j'avais prédit Tsitsipas gagnant, mais Djokovic, je ne l'avais pas mis loin, il me semble. Je pense que je l'avais mis en demi-finale. Défaite contre Alcaraz, mais là, on a été pris par son abandon. Fait que ça ne nous a pas avantagé. Mais ouais, vas-y.
Au jeu des prédictions, là, avais-tu... Parce que là, Tsitsipas, il a changé de place dans le tableau. Hein? Puis comme moi, j'avais fait mes prédictions avant, puis je me suis ramassé avec Émile Rossovouri en finale.
Ah, je sais pas. Moi, ça n'a pas...
Garanti que c'est pas... OK, bien, peut-être que je l'ai fait trop tôt. Parce que je pense qu'il y a eu des changements dans le tableau. Je veux dire, il n'aurait jamais mis Émile Rossovouri en finale. Mais c'est une parenthèse. Nico, Hugues, qu'est-ce que vous avez pensé de cette performance-là de Djokovic?
Pour moi, son retour est plus rapide que je le prévoyais. Il m'impressionne beaucoup. Je crois qu'il est d'office... par son expérience et par l'enjeu qu'il a devant lui encore de rattraper Nadal en termes de nombre de victoires à Grand Chelem. Je le mets comme favori sur Roland Garros aujourd'hui, devant Alcaraz, même si Alcaraz est le meilleur joueur en ce moment. N'oubliez pas que ça va se passer en 5-7 à Roland Garros, c'est quand même une autre histoire. Donc Djokovic, dominant, écoute, 6-0 contre Tsitsipas, là, faut le faire. Tsitsipas qui est un des meilleurs joueurs sur terre battue, qui avait déjà un Masters 1000 sous la cravate ce printemps. Djokovic, on voit le Wolf qui est de retour vraiment. Là. On a vu son attitude contre Félix. On l'a vu vraiment, vraiment dominant en finale. Donc, il est de retour dans toute sa splendeur, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Mais c'est du grand Djokovic qu'on voit en ce moment. Il sera très, très difficile à battre à Roland Garros.
moi, ça brouille encore plus mes cartes pour Roland Garros, à vrai dire. On en a parlé à quel point il y a de la parité. Tu sais, présentement, là, il y a plusieurs prétendants au titre sérieux, je pense. Djokovic, Nadal, s'il est en santé, Zverev, Tsitsipas, Alcaraz, Rude et Félix. Pour moi, ce sont...
Pourquoi pas Félix?
Comment?
Je dis pourquoi pas Félix, qui l'a quand même poussé à 7-5, 7-6. Hey, c'était vraiment un match très, très équilibré.
Voilà, on n'a pas le choix de le mettre. Qui sait ce qui serait arrivé si ce n'était pas Djokovic et que ça avait été un Zverev ou un Tsitsipas qui l'a déjà battu? Donc moi, ce sont là, probablement là, les plus grands prétendants. On n'est jamais à une surprise près. Pourquoi pas un Sinner ou un Berrettini, par exemple, qui pourrait peut-être remporter ce titre-là. Mais il y a tellement de bons joueurs présentement que ça fait un bail là, que je n'ai pas eu de la difficulté à me faire une idée sur l'éventuel gagnant. C'est difficile parce que tout le monde joue bien. À Roland-Garros, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Pour moi, c'est le tournoi le plus intéressant depuis un sacré bail. Tournoi Grand Chelem, là, je le précise. Mais oui, donc, cette victoire de Djoko m'hypnotise encore plus lorsque vient le temps de me pencher sur l'éventuel gagnant de ce tournoi à la Porte d'Auteuil.
Ouais, juste rajouter quelques stats. Là. Une 38e victoire en Masters 1000. Il est sur une autre planète là, sur cette stat-là. 370 semaines consécutives à la place de numéro 1. Il continue là, de réécrire tranquillement les livres de records. Il voudrait aller chercher sa 22e victoire à Grand Chelem, que tout le monde pensait que c'était pour être lui. C'est Nadal qui l'a eu finalement. On parlera un petit peu de Nadal là, qui n'arrive peut-être pas dans les meilleures conditions à Roland-Garros, là, à son tournoi, mais Djoko en ce moment continue sur sa lancée là, de réécrire le livre des records.
Oui, puis on oublie souvent, je trouve, à quel point Djoko est bon sur terre battue. On parle souvent de Nadal, mais il ne faut pas l'oublier que Djoko est très à l'aise aussi sur le sable rouge. Je pense que c'est sa 6e victoire à Rome, là. Si je ne m'abuse, il faudrait vérifier, mais bon, Abraham le confirme. Djoko est excellent sur terre battue. Le style que ça impose lui si bien. Défensivement, il est bon, il tient le coup physiquement. Franchement, Djoko, je lui lève mon chapeau parce que personne ne le voyait là, du moins, c'était moins facile de le prévoir, pardon. Mais force est d'admettre qu'il est bien de retour.
Mais si tu peux ajouter de quoi, là? Djokovic, il a beau être encore numéro 1, avoir 38 titres Masters 1000 et dominer littéralement le tennis en ce moment. Moi, en faisant les posts des résultats sur la ligne, on a fait beaucoup de Djokovic dans les dernières semaines. Il y a beaucoup de réactions avec l'emoji fâché. Il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Mais puis j'en fais peut-être un peu partie, là, je vais l'avouer un peu. Mais c'est spectaculaire comment les gens... se défoule sur lui, puis malgré qu'il est super bon. Je trouve ça spécial, puis on n'a pas ça avec Federer ni Nadal.
Ben, écoute, Abraham, c'est vrai qu'il a, il est mitigé, et ça a toujours... Je pense que ça s'est exacerbé dans les deux dernières années, mais c'est vrai qu'il a jamais eu l'espèce d'aura de Federer ou Djokovic. Justement, on en parlait tantôt hors d'onde, Hugues. Tu sais, on regardait le top 10 Forbes, qu'on reparlera peut-être un peu plus tard, mais tu sais, il est pas commandité à la hauteur de son classement. Non?
Non, ben c'est évident que Djokovic, même dans le débat du GOAT, là, du Greatest of All Time, au-delà des chiffres, moi je vous en ai parlé une couple de fois, puis je me rappelle un certain Ivan Lendl qui a un peu souffert des mêmes problèmes d'appréciation auprès d'une certaine population. Ça passe pas Djokovic, ça ne passera pas, même s'il passe à 22, 23 titres en Grand Chelem et que ses stats sont vraiment à un autre niveau que celle de Federer et Nadal. C'est pas un champion aimé par une grande partie des gens. Et effectivement, ça se reflète sur son ratio bourse en match et commandite qui est très bas en fait. Là. Son ratio en bourse est trop élevé par rapport à ses commandites. C'est la preuve que les commanditaires, même s'il est numéro un, il bat des records, il est en finale semaine après semaine ou presque. Donc il y a beaucoup de visibilité pour un commanditaire. C'est pas un athlète ou une marque athlète que les marques de consommation s'arrachent en ce moment. Je pense qu'il peut être content que Lacoste soit resté avec lui durant la période de Australian Open. Même chose pour Ed ou pour ASICS. Je pense qu'Uniqlo était bien content d'arrêter son association avec lui, parce qu'oubliez pas qu'Uniqlo a commandité Djokovic avant de commanditer Federer. On en reparlera un petit peu plus tard. Mais il y a vraiment un déficit d'appréciation pour Djokovic, mais qui va rester selon moi.
Et c'est fou quand on regarde ce qu'il fait sur le terrain, par exemple, parce que tu sais déjà depuis Belgrade, il est, c'est les résultats ont été au rendez-vous là. Je veux dire, il a à peu près que perdu contre Alcaraz, qui est à ce moment-là peut-être le meilleur joueur au monde. Ah, il a perdu en finale à Belgrade contre Rublev, mais qui est encore solide. Et puis là, remporte le titre à Rome. Je veux dire. C'est quand même phénoménal. Et tu sais, il pourrait, si je ne m'abuse, et je pense pas que je vais me tromper, là, mais il pourrait devenir le premier à remporter, ben, c'est sûr qu'il est le premier, à remporter 3 grands chelems, tous les grands chelems 3 fois, s'il fallait qu'il remporte Roland Garros. C'est ouais. Démentiel. Ouais. C'est complètement fou.
Ben, complètement fou. Puis on parlait tantôt du parcours de Swiatek. Le parcours de Djokovic n'était pas simple non plus. Là. Il y avait des pièges, tu sais. À commencer par Félix, où Hugues l'a dit tout à l'heure, ça pouvait aller d'un bord ou de l'autre. Ensuite, au tour suivant, on avait Casper Ruud, qui est un excellent joueur de terre battue. Je le disais tantôt, un possible aspirant au titre à Roland-Garros. Et puis en finale, Stefanos Tsitsipas, que Djoko a malmené, là, surtout en première manche. Puis au deuxième set, il est revenu de l'arrière pour vaincre Tsitsipas. Donc oui, Djoko l'emporte. La manière, il l'a fait de manière sensationnelle. Il y a nul doute que c'était. Il y a le débat. Tu sais, je te disais la semaine passée, Alex, là, tu sais, on se débattait si Alcaraz ou Djokovic qui est le meilleur joueur au monde présentement. Ma réponse sera la même cette semaine et elle est confirmée d'autant plus. C'est Djokovic le meilleur joueur au monde présentement. Si je devais gager ma vie sur un joueur actuellement pour gagner, c'est Novak Djokovic.
Intéressant, intéressant. Tu l'as un peu abordé. On a parlé de cette victoire-là de Novak Djokovic qui a été presque. C'est le deuxième set a été plus amplement disputé, mais faire un 6-0 contre un Tsitsipas qu'on peut légitimement imaginer comme un aspirant au titre à Roland-Garros, c'est un message clair de la part de Novak Djokovic. Et quand on regarde cette performance-là, on l'a effleuré un peu tout à l'heure. C'est rassurant pour ce qui se passe dans le cas de Félix, parce que si on regarde les deux résultats, Félix, il a mieux performé contre Novak Hugues.
Oui, je pense que Tsitsipas était un peu fatigué. C'est pas normal, un 6-0. Là. Il s'est replacé un peu durant le deuxième set, mais donc oui, mais encore une fois, dans la perspective historique, dans un grand chelem qui se joue en 5-7, je le répète, là, puis je le dirai pas avant qu'on en reparle la semaine prochaine, mais Alcaraz, bien qu'il soit le meilleur joueur en ce moment, dans une perspective de grand chelem qui se joue en 5-7, moi, je vais donner un petit edge déjà à Djokovic par rapport à Alcaraz comme prétendant au titre à Roland-Garros. Et Tsitsipas, moi, un petit peu inquiété. Bien qu'il a eu sa revanche contre Zverev par rapport à il y a une semaine, donc je pense que Tsitsipas est quand même dans de bonnes dispositions, mais la semaine de congé de cette semaine va lui faire du bien en préparation. Il jouera sûrement pas avant mardi ou mercredi, donc ça va aller pour Tsitsipas. Félix, pourquoi pas, c'est le joueur peut-être qui a le plus poussé Djokovic cette semaine. Et Félix a appris aussi dans ce match-là. Il y a eu une guerre d'appréciation de la foule. Djokovic a beaucoup réclamé les applaudissements et les réactions de la foule, ce qui a un peu énervé Félix d'ailleurs. Félix a essayé de le faire aussi. C'était un bizarre de match au niveau de l'atmosphère. Là, il y avait beaucoup de testostérone et de manifestations sur le terrain. Mais Djokovic est vraiment au sommet de sa forme en ce moment. Et comment il a progressé depuis ses premiers matchs, vous vous souvenez, à Belgrade notamment. Moi, je vous disais, je trouvais qu'il se faisait beaucoup pousser, que je ne le sentais pas tout à fait au même niveau qu'il devrait être habituellement. Écoute, un mois après, il se back au plus haut niveau lui aussi. Donc, la table est mise pour Roland Garros. Si
Abraham, j'allais dire commentaire sur la performance de Félix.
J'y vais. Sur Félix... Ouais, moi, j'ai été agréablement surpris là, depuis la semaine passée avec Madrid. Il y a eu des très belles performances contre des joueurs contre qui normalement on s'attend à gagner. Là, il a réussi à gagner, surtout à Madrid, victoire contre Yannick Sinner. Ça, je m'y attendais vraiment pas. Après ça, Zverev, on s'entend, il est sur un autre niveau. Puis à Rome aussi, les victoires qu'il était supposé gagner, il a gagné. Puis les victoires qu'on s'attendait à ce qu'il perde contre Djokovic, il a perdu, mais il s'est bien battu. Et sur Djokovic, si je peux ajouter, là, il y en a qui l'ont dit, il a eu la meilleure préparation avant Roland Garros. Il est arrivé au bon moment. Là. Il est arrivé à Monte Carlo. Aucune pression de son côté. Il a perdu contre le futur finaliste Davidovich Fokina. Après ça, à Belgrade, chez lui, sans stress. Il s'est littéralement...
Finale contre Rublev.
Écroulé en finale. Puis après ça, Madrid-Rome, il a super bien performé. Fait que je pense qu'il a augmenté sa cote pour Roland Garros dans la dernière semaine.
Ça c'est certain. Moi, j'ai beaucoup aimé la victoire de Félix, pour terminer sur le cas de Félix, contre Davidovich Fokina, parce que c'était pas un adversaire facile, et contre Giron. Mais tu sais, on a parlé souvent de remporter ces matchs-là qu'il doit gagner, entre guillemets, de façon facile, et ça a été le cas. Et je pense que, pour utiliser une expression que Hugues utilise souvent, il a joué à la hauteur de son classement dans les dernières semaines, et ça, c'est particulièrement rassurant à l'approche de Roland-Garros.
Exact. Moi, c'est ça qui me rassure, c'est ce que j'attendais. Donc, c'est vraiment une excellente performance là, pour Félix d'être dans les derniers 8 à Rome. Donc, il a joué au niveau de son classement. Davidovich Fokina, un des meilleurs joueurs sur terre battue. Performance contre Djokovic. Il doit être de bonne humeur, Félix. Il prend un petit break aussi. On l'a vu, là. Il était de retour à Monte-Carlo chez lui sur les réseaux sociaux. Une belle photo en haut du rocher avec vue plongeante sur la Méditerranée. Je pense qu'il va arriver à Roland-Garros en pleine forme. Je m'attends à un très beau Roland-Garros de Félix Auger-Aliassime.
Abraham, on a parlé de Félix, mais on n'a toujours pas parlé de Denis Shapovalov. Il a été, comment dire, surprenant. Je vais dire ça comme ça, mais dans les deux sens, autant positivement que négativement. Qu'as-tu pensé de la performance de Chapeau qui a au passage battu Nadal, mais perdu contre Casper Ruud?
Ben, c'est pas rien. Écoute, moi, je pense qu'il est revenu à un très bon niveau. Hein. On dirait que dans les deux dernières semaines, là, le mois de mai ou fin avril, là, ça redonnait un élan au Canada au niveau tennis. Là, parce que dans les derniers mois, c'était pas facile à voir. Mais Rafael Nadal contre Denis Shapovalov, là, un an, jour pour jour quasiment, 8e de finale à Rome, même match. On a fait un petit tableau de ça sur la ligne. Puis moi, je l'ai dit, Shapovalov va gagner. Mais j'étais pas très à l'aise avec ma prédiction. Mais en voyant le match, ça a été vraiment, vraiment très bien à voir. Puis malgré que Nadal a fini sur une patte, là. Mais j'étais vraiment content, puis je pense qu'il peut retenir du positif là-dessus, puis en ce moment, il va compétitionner à Genève, puis il peut juste bien performer là-bas, je pense.
Performance rassurante de Chapeau ou inquiétante de Nadal, Nico?
Non, je vais donner l'avantage à Chapeau. On lui doit, il le mérite. Nadal, c'est purement physique, là, parce qu'il était dans ce match-là. Il a été embêté. Félix en a profité, évidemment. Chapeau par ailleurs à Nadal, là, qui, comme un grand champion, termine le match à l'image de Federer et de cette lignée de grands champions. Mais Chapeau, pour moi, ce tournoi-là, c'est ni plus ni moins que son meilleur tournoi depuis Wimbledon l'an dernier où il a atteint les demi-finales. Il a été constant, il a été combatif, il a été hargneux, il a été... constant, j'ai envie de dire, aussi à certains moments, même si, rappelez-vous, en début de semaine, je vous disais qu'il était hésitant dans son premier match contre Sonego, mais ça s'est concrétisé, ça s'est amélioré, dois-je dire, au fur et à mesure que le tournoi avançait. Contre Nadal, ça a été un excellent match de tennis jusqu'à la moitié là, du troisième set. Contre Casper Ruud, c'est très, très bien battu. Ça aurait pu aller d'un côté ou de l'autre. Vraiment, chapeau. On critique l'allocation, surtout depuis un an, mais lorsqu'on doit lui faire les éloges, bien, il faut les faire parce qu'il a vraiment très, très bien performé à Rome.
Ouais, ben, je suis d'accord avec toi. Messieurs, on va faire une courte pause. Au retour, on va parler du classement Forbes des athlètes les mieux payés parce qu'il y a un certain Federer qui s'y retrouve. Hugues a des informations pour nous et on va regarder ce qui s'en vient au courant de la semaine prochaine. Messieurs, avant qu'on passe à ce qu'on devra surveiller la semaine prochaine, ce dernier bloc sera dédié à Hugues Léger parce que ce sont ces deux spécialités. Je veux qu'on commence avec le classement Forbes qui est sorti il y a quelques jours, Hugues, et je regardais le classement et je voulais que tu en parles parce que je trouvais ça bien intéressant de voir que Federer est encore l'athlète le mieux payé dans le tennis et il est encore dans le top 10 Forbes alors qu'il ne joue à peu près pas. Comment est-ce qu'on explique ça?
Écoute, dans les derniers 12 mois, Federer a gagné 30 000 $ en bourse. juste pour positionner un peu où ça se situe. C'est à peu près notre salaire pour le podcast. Donc, très peu de revenus au niveau du terrain pour Roger Federer. Mais malgré tout, quand on fait le total de bourses et de commandites, il gagne 3 fois plus que Novak Djokovic, qui est numéro 1, qui est actif, qui bat record après record en ce moment. Donc, on parlait un peu du déficit d'appréciation de Djokovic. C'est un enjeu qui va rester jusqu'au bout de sa carrière. Federer, oublions pas qu'il a signé une commandite avec Uniqlo en 2018 qui lui donne 300 millions de dollars sur 10 ans, donc 30 millions par année. Quand Uniqlo l'a signé, il savait très bien en 2018 qu'il lui restait peut-être 2, 3, 4 années sur le circuit. Ça a été un peu plus vite que prévu, son arrêt. Moi, comme je vous l'ai dit, je ne crois pas qu'il va revenir au plus haut niveau Federer. On va le voir tranquillement faire quelques tournois d'adieu, je crois, dans les prochains mois. Mais c'est un ambassadeur pour le tennis qui va rester. C'est un ambassadeur de premier plan pour Uniqlo. Et n'oublie pas que Uniqlo a déjà commandité Novak Djokovic. Donc, ils l'ont laissé tomber. Donc, quand ils ont vu que le contrat arrivait à terme et que Federer était prêt à renégocier aussi parce que son contrat avec Nike arrivait en bout de course, ils ont laissé tomber Djokovic, Uniqlo, pour aller avec Federer. Djokovic, là, c'est un enjeu pour lui, mais je pense qu'il vit bien avec ça. Puis, comme je le disais, je pense qu'il doit être content que des marques comme Lacoste et Ed soient toujours avec lui. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais la place qu'il occupe au niveau du classement Forbes, c'est un problème. Il y a des gars comme Kei Nishikori qui ne joue presque pas non plus, qui fait presque autant de COVID parce qu'il est très bien au niveau commandite du côté de l'Asie-Pacifique. Il est devancé aussi au niveau du classement par Naomi Osaka, par Serena Williams. Écoutez, là, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Donc, c'est vraiment là, le reflet de la stature grand public que Djokovic a réussi à bâtir, ou à moins bien bâtir que les autres joueurs. Et tranquillement, des gars comme Medvedev montent. Évidemment, Medvedev a un enjeu avec la situation en Russie en ce moment, suite à l'invasion de l'Ukraine. Moi, je trouve ça plate que les joueurs russes soient pénalisés parce que c'est pas leur choix. C'est des joueurs qui jouent pas pour une équipe nationale. Ils jouent pour leur propre bannière en ce moment, que ce soit Rublev ou Medvedev. Mais Djokovic, ça va rester un enjeu. Puis Federer, écoutez, bien tranquille avec sa position dans le classement Forbes. Et je ne crois pas qu'il y a un joueur de tennis qui va le rattraper de si tôt. Mais quand même, Federer, si je regarde là, le dernier classement dont tu fais mention, Alex, il a quand même baissé de une position. Il était numéro 6 l'an passé. Il est numéro 7 cette année. Et donc, les derniers chiffres le mettent à 70 000 $ en revenus. Donc, il en a fait un petit peu là, dans la dernière partie de l'année. Mais ce qui est intéressant, c'est off-field, 90 millions là, pour ses revenus de commandite en dehors du terrain.
Est-ce que c'est encore payant pour une compagnie comme ça? Est-ce que les compagnies, ben, visiblement, ils doivent penser que c'est le cas, là, mais est-ce que Federer est encore payant même s'il ne joue pas?
Oui. Pour Uniqlo, n'oubliez pas, c'est une marque de fast fashion, hein, comme les H&M ou Zara de ce monde, une marque qui se déploie partout dans le monde, mais qui était plus connue en Europe, en Asie. Uniqlo utilise Federer comme ambassadeur de marque mondiale. Et quel meilleur ambassadeur de marque que Roger Federer pour percer n'importe quel marché au niveau mondial? C'est l'athlète idéal dans un sport qui transcende les continents et les pays aussi, qui est le tennis, un peu comme le soccer. Moi, j'ai aucun, d'un point de vue marketing, je pense que quand on peut avoir Federer, on prend Federer. Ça va être c'est un ambassadeur de premier plan qui va faire du bien pour une marque, pour l'appréciation d'une marque, mais pour la notoriété aussi dans des pays où cette marque cherche à se développer. Donc, je pense qu'ils ont mis le paquet, ils pouvaient le mettre. En passant, Uniqlo commandait aussi Kei Nishikori, mais c'est Federer qui est leur poster boy maintenant et encore pour 6-7 ans.
pas de femme dans ce top 10-là. Aux dernières nouvelles, là, j'ai pas vu la déclinaison plus que le top 10. Ça va sûrement sortir dans les prochains jours. Ouais. Mais l'année passée, c'était Naomi Osaka, l'athlète qui était la plus près du top 10. Là. Elle était entre le top 10 et top 20. Là, ouais. Ça doit être encore elle. Est-ce qu'elle pourrait percer le top 10 éventuellement ou est-ce que ça prendra des résultats sur le terrain pour voir ses gains exploser en termes de commandite?
Vous savez ce que j'en pense. Oui, il faut des résultats. Je pense que Naomi est une porte-voix parfaite pour la nouvelle génération. Dans un premier temps, c'est vraiment intéressant. Elle est très bien dans les valeurs de marque de Nike, qui est son commanditaire principal au niveau vêtements. Mais dans 2-3 ans, si Naomi Osaka n'est plus une force dans le top 20 du tennis, elle ne peut pas aspirer à ce que Roger Federer a en ce moment. Elle n'est pas rendue là. Malgré ses victoires en Grand Chelem. Donc, elle doit avoir des grandes victoires. Elle doit aller chercher un autre Grand Chelem éventuellement. Sinon, après 2, 3, 4, 5 ans, on va l'oublier tranquillement. Donc, elle peut pas être récompensée au niveau financier, au niveau commercial, que pour ses prises de position. Elle est trop jeune encore pour ça. Elle doit performer aussi. Donc, il faut une combinaison des deux. Ce qui la rendait si attrayante il y a 2-3 ans, justement. C'est pour ça qu'elle a fait autant aussi vite. Mais elle combinait les deux à ce moment-là. Donc là, il y a un déficit côté performance sportive. Et je pense qu'elle va devoir revenir avec des bons résultats pour maintenir ce niveau de commandite. Sinon, elle se fera dépasser. Honnêtement, je ne sais pas par qui aujourd'hui, parce que je pense qu'une Viatek, une Ons Jabeur, une Sabalenka, même Bianca, elles n'ont peut-être pas l'attrait d'une amie Osaka en ce moment au niveau de ce que j'appelle le full package souvent, mais Naomi va devoir revenir avec des performances sportives pour maintenir ce niveau.
Du côté des femmes, ce serait peut-être une Badosa qui aurait si elle peut enchaîner les résultats des grands chelems, ouais. Comme tu dis, qui serait très marketable, entre guillemets. Quoique les standards de marketing ont changé un peu, et ça va peut-être encore changer, peut-être que ça avantagerait les filles comme Ons Jabeur éventuellement.
Là. Oui, attention, là, quand on parle de marketabilité, c'est pas que d'être a pretty face. Là. Je vais être bien égal là-dessus, on est plus là au niveau 2022. Il faut des athlètes qui ont des valeurs, qui ont des engagements au niveau sociétal auxquels les plus jeunes peuvent s'identifier. Donc, c'est plus la même game qu'au moment de même Sharapova. Ça fait pas si longtemps, mais Sharapova, c'était beaucoup ça. Eugénie aussi, dans une certaine mesure, c'était beaucoup ça. Donc là, on va chercher en tant que marque là, une adéquation entre les prises de position d'une marque qui sont importantes là, pour les groupes cibles auxquels on veut parler. Et on parle souvent des 18-34 là, quand on parle d'audience.
Hugues, je te lance une petite colle d'ici 5 ans. Le Federer est au sommet des athlètes les plus payés. Qui sera l'athlète de tennis le mieux payé au monde dans ce classement-là dans 5 ans? Je ne pense pas que Federer va être encore là. Peut-être sera-t-il encore là, mais si, mettons, supposons que ce n'est pas Federer, qui serait là, selon toi?
Je pense que Félix est bien placé pour ça.
Ah ben c'est drôle, hein, parce que c'est le nom que j'aurais peut-être en tête. Si il peut aller chercher quelques titres Grand Chelem.
Exact.
Bon, peut-être Alcaraz aussi, là, parce qu'il est beaucoup apprécié. Mais c'est drôle parce que moi aussi, c'est Félix, c'est peut-être le nom que j'ai en tête en termes de whole package,
comme tu disais tantôt. Oui, il parle, bon, donc évidemment, anglais, français, très bien. C'est une très belle histoire de réussite, ça, son histoire avec son père qui l'a entraîné. N'oubliez pas qu'il a fait la une de l'équipe en, mon Dieu, c'était 2019 ou 2018, il était à la une du prestigieux magazine du journal français L'Équipe, qui le présentait comme le prochain Mbappé, qui est le prince du soccer en ce moment, vous le savez. Donc, je pense que Félix, par son attitude sur le terrain, par ses performances, par sa gentillesse, par son fair play, il a toutes les valeurs qu'on aime d'un grand joueur de tennis. Donc, je pense que Félix, Alcaraz, pourquoi pas, hein, mais il est plus jeune, il n'a pas le niveau de maturité d'un Félix encore. Je pense qu'Alcaraz aura un impact majeur au niveau du tennis, tant sur le terrain qu'en dehors. Mais si tu me poses une question, qui est le prochain joueur à aller chercher une excellente position au niveau du classement Forbes? Je m'attends à ce que Félix Auger-Aliassime progresse très bien.
Je trouve qu'on écarte rapidement Sébastien Corda, les gars.
c'est Abraham Zander qui sera l'athlète le mieux payé dans les 5 prochaines années. Hugues, tu gardes le crachoir. Hein? Pardon?
Faut pas en parler de ça.
Non, c'est ça, il faut pas en parler. Hugues, tu gardes le crachoir. Qu'est-ce qu'on surveille la semaine prochaine? Il y a quelques tournois là, chez les hommes des 250, chez les hommes et chez les femmes.
pour ceux qui n'ont pas terminé leur préparation à Roland-Garros et qui veulent étudier vite, vite avant l'examen important qui commence le 22 mai à Paris. Genève, donc tous des 250 cette semaine, mais quand même des joueurs intéressants. Medvedev qui fait un retour après son opération. J'ai bien hâte de voir comment il va performer à Genève. Premier favori. Évidemment, Denis Shapovalov qui est là aussi. Casper Ruud qui est à Genève. Donc, des matchs intéressants à suivre sur Genève. Lyon, donc l'Open Rhône-Alpes. Avec Cameron Norrie et Carreño Busta, qui est le deuxième favori. Donc, Lyon et beaucoup de Français, évidemment, comme à chaque année à Lyon. Tsonga, malheureusement, dans sa tournée d'adieu, a déjà perdu au premier tour à Lyon. Donc, on va le revoir à Roland-Garros pour son dernier tour de piste. Et du côté féminin, Strasbourg et au Maroc, qui vont être des 250 aussi cette semaine.
On va surveiller particulièrement Shapovalov, d'ailleurs, cette semaine à Genève, c'est à peu près le seul Canadien en action.
Et Carole Zao qui joue à Rabat. Donc, une Canadienne, notre Carole Zao, là, qui sera à Rabat au Maroc.
C'est pour ça qu'il est le spécialiste du à surveiller. En fait, fait tout. J'ai Abraham et le corps et homme, Hugues aussi. Et Nico aussi. Ouais, vas-y donc, Abraham, si tu vas rusher. Alexis Gallardon, tu veux parler? Ah, Dominique Thiem.
Okay. Dominique Thiem, il est encore en train d'essayer de gagner un match. Il a essayé, ça fait quelques tournois. Mais là, il est en action à Genève, puis il a perdu la première manche. Ça se dirige vers une autre défaite.
Bon, c'est dommage. C'est dommage pour celui qu'on a considéré pendant un bout comme le dauphin de Roland-Garros. Nicolas Richard, on arrive à la fin de l'épisode et les oiseaux chantent toujours dans ton Saint-Jérôme natal. Et ben, accompagné des oiseaux, je vais te donner le mot de la fin, mon cher ami.
Bon tennis, Alex. Bon tennis, Hugues. Bon tennis, Abraham. Bon tennis, tout le monde.